L'Odyssée, chant 22e. Alors le subtil Odysseus, se dépouillant de ses haillons et tenant dans ses mains l'arc et le carquois plein de flèches, sauta du large seuil, répandit les flèches rapides à ses pieds et dit aux prétendants « Voici que cette épreuve tout entière est accomplie. Maintenant, je viserai un autre but qu'aucun homme n'a jamais touché, qu'Apollon me donne la gloire de l'atteindre. » Il parla ainsi, et il dirigea la flèche amère contre Antinoos. Et celui-ci allait soulever à deux mains une belle coupe d'or à deux anses, afin de boire du vin. Et la mort n'était point présente à son esprit. Et en effet, qui eût pensé qu'un homme, seul au milieu de convives nombreux, eût osé, quelle que fût sa force, lui envoyer la mort et la guerre noire. Mais Odysseus le frappa de sa flèche à la gorge, et la pointe traversa le cou délicat. Il tomba à la renverse, et la coupe s'échappa de sa main inerte, et un jet de sang sortit de sa narine, et il repoussa des pieds la table, et les mets roulèrent et partent sur la terre, et le pain et la chair rôtie furent souillés. Les prétendants frémirent dans la demeure quand ils virent l'homme tomber, et se levant en tumulte de leur siège, ils regardaient de tous côtés sur les murs sculptés, cherchant à saisir des boucliers et des lances. Et ils crièrent à Odysseus en paroles furieuses. « Étranger, tu envoies traîtreusement tes flèches contre les hommes. Tu ne tenteras pas d'autres épreuves, car voici que ta destinée terrible va s'accomplir. Tu viens de tuer le plus illustre des jeunes hommes d'Ithaque, et les vautours te mangeront ici. » Il parlait ainsi, croyant qu'il avait tué involontairement, et les insensés ne devinaient pas que l'équerre de la mort était sur leur tête. Et les regardant d'un œil sombre, le subtil Odysseus leur dit « Chien, vous ne pensiez pas que je reviendrais jamais du pays des Troyens, dans ma demeure, et vous dévoriez ma maison, et vous couchiez de force avec mes servantes. Et moi vivant, vous recherchiez ma femme, ne redoutant ni les dieux qui habitent le large Ouranos, ni le blâme des hommes qui viendront. Maintenant, les cœurs de la mort vont vous saisir tous. » Il parla ainsi, et la terreur les prit, et chacun regardait de tous côtés, cherchant par où il fuirait la noire destinée. Et seul Eurymachos, lui répondant, dit « S'il est vrai que tu sois Odysseus l'Ithaquésien, revenu ici, tu as bien parlé, en disant que les Achéens ont commis des actions iniques dans tes demeures et dans tes champs. Mais le voici gisant, celui qui a été cause de tout. C'est Antinoos qui a été cause de tout, non parce qu'il désirait ses noces, mais ayant d'autres desseins, que le Cronion ne lui a point permis d'accomplir. Il voulait régner sur le peuple d'Ithaque bien bâti, et tendait des embûches à ton fils pour le tuer. Maintenant qu'il a été tué justement, aie pitié de tes concitoyens. Bientôt nous t'apaiserons devant le peuple. Nous te paierons tout ce que nous avons bu et mangé dans tes demeures. Chacun de nous t'amènera 20 bœufs, de l'airain et de l'or, jusqu'à ce que ton âme soit satisfaite. Mais avant que cela soit fait, ta colère est juste. » Et le regardant d'un œil sombre, le prudent Odysseus lui dit « Eurymachos, même si vous m'apportiez tous vos biens paternels et tout ce que vous possédez maintenant, mes mains ne s'abstiendraient pas du carnage avant d'avoir châtié l'insolence de tous les prétendants. Choisissez, ou de me combattre, ou de fuir, si vous le pouvez, la guerre et la mort. Mais je ne pense pas qu'aucun de vous échappe à la noire destinée. » Il parla ainsi, et leurs genoux à tous furent rompus. Et Eurymachos, parlant une seconde fois, leur dit « Ô amis, cet homme ne retiendra pas ses mains inévitables. » Ayant saisi l'arc poli et le carquois, et tirant ses flèches du seuil de la salle, jusqu'à ce qu'il nous ait tués tous. Souvenons-nous donc de combattre. Tirez vos épées, opposez les tables aux flèches rapides, jetons-nous tous sur lui, et nous le chasserons du seuil et des portes, et nous irons par la ville, soulevant un grand tumulte. Et bientôt, cet homme aura tiré sa dernière flèche. » Ayant ainsi parlé, il tira son épée aiguë à deux tranchants et se rua sur Odysseus en criant horriblement. Mais le divin Odysseus, le prévenant, lança une flèche et le perça dans la poitrine, auprès de la mamelle, et le très rapide s'enfonça dans le foie. Et l'épée tomba de sa main contre terre, et il tournoya près d'une table, dispersant les mets et les coupes pleines. Et lui-même se renversa en se tordant et en gémissant, et il frappa du front la terre, repoussant un trône de ses deux pieds, et l'obscurité se répandit sur ses yeux. Alors Amphinomos se rua sur le magnanime Odysseus, après avoir tiré son épée aiguë, afin de l'écarter des portes. Mais Télémachos le prévint en le frappant dans le dos, entre les épaules, et la lance d'airain traversa la poitrine. Et le prétendant tomba avec bruit et frappa la terre du front. Et Télémachos revint à la hâte, ayant laissé sa longue lance dans le corps d'Amphinomos, car il craignait qu'un des Achéens l'atteignît, tandis qu'il l'approcherait, et le frappa de l'épée sur sa tête penchée. Et en courant, il revint promptement auprès de son cher père, et il lui dit ces paroles ailées. « Ô père, je vais t'apporter un bouclier et deux lances, et un casque d'airain adapté à tes tempes. Moi-même je m'armerai, ainsi que le porcher et le bouvier, car il vaut mieux nous armer. » Et le prudent Odysseus lui répondit, « Apporte-les en courant. Tant que j'aurai des flèches pour combattre, ils ne m'éloigneront pas des portes, bien que je sois seul. » Il parla ainsi, et Télémachos obéit à son cher père, et il se hâta de monter dans la chambre haute, où étaient les armes illustres, et il saisit 4 boucliers, 8 lances, et 4 casques épais d'airain, et il revint en les portant, et il rejoignit promptement son cher père. Lui-même, le premier, il se couvrit d'airain, et les 2 serviteurs s'étant aussi couverts de belles armes, ils entourèrent le sage et subtil Odysseus. Et tant que celui-ci eut des flèches, il en perça sans relâche les prétendants, qui tombaient amoncelés dans la salle. Mais après que toutes les flèches eurent quitté le roi qui les lançait, il appuya son arc, debout contre les murs splendides de la salle solide, jeta sur ses épaules un bouclier à 4 lames, posa sur sa tête un casque épais à crinière de cheval, et sur lequel s'agitait une aigrette, et il saisit 2 fortes lances, armées d'airain. Il y avait dans le mur bien construit de la salle, auprès du seuil supérieur, une porte qui donnait issue au dehors, et que fermaient 2 ais solides. Et Odysseus ordonna au divin porcher de se tenir auprès de cette porte pour la garder, car il n'y avait que cette issue. Et alors, Agélaos dit au prétendant, « Ô ami, quelqu'un ne pourrait-il pas monter à cette porte, afin de parler au peuple et d'exciter un grand tumulte? Cet homme aura bientôt lancé son dernier trait. » Et le chevrier Mélanthios lui dit, « Cela ne se peut, divin Agélaos. L'entrée de la belle porte de la cour est étroite et difficile à passer, et un seul homme vigoureux nous arrêterait tous. Mais je vais vous apporter des armes de la chambre haute. C'est là, je pense, et non ailleurs, qu'Odysseus et son illustre fils les ont déposées. » Ayant ainsi parlé, le chevrier Mélanthios monta dans la chambre haute d'Odysseus, par les échelles de la salle. Là, il prit 12 boucliers, 12 lances et autant de casques d'airain à crinières épaisses, et se hâtant de les apporter, il les donna aux prétendants. Et quand Odysseus les vit s'armer et brandir de longues lances dans leurs mains, ses genoux et son cher cœur furent rompus, et il sentit la difficulté de son œuvre. Et il dit à Télémachos ces paroles ailées. « Télémachos, voici qu'une des femmes de la maison, ou Mélanthios, nous expose à un danger terrible. » Et le prudent Télémachos lui répondit, « Ô père, c'est moi qui ai failli, et aucun autre n'est cause de ceci, car j'ai laissé ouverte la porte solide de la chambre haute, et la sentinelle des prétendants a été plus vigilante que moi. Va, divin Omaios, ferme la porte de la chambre haute, et vois si c'est une des femmes qui a fait cela, ou Mélanthios, fils de Dolios, comme je le pense. » Et tandis qu'il se parlait ainsi, le chevrier Mélanthios retourna de nouveau à la chambre haute pour y chercher des armes, et le divin porcher le vit. Et aussitôt, s'approchant d'Odysseus, il lui dit, « Divin Laertiade, subtil Odysseus, Ce méchant homme que nous soupçonnions retourne dans la chambre haute. Dis-moi la vérité. Le tuerai-je si je suis le plus fort, ou te l'amènerai-je pour qu'il expie toutes les actions exécrables qu'il a commises dans ta demeure ? Et le subtil Odysseus lui répondit : Certes, Télémachos et moi, nous contiendrons les prétendants insolents, malgré leur fureur. Vous, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans la chambre, et avant de fermer les portes derrière vous, enchaînez-le, et suspendez-le à une haute colonne, afin que, vivant longtemps, il subisse de cruelles douleurs. » Il parla ainsi, et ils entendirent et obéirent. Et ils allèrent promptement à la chambre haute, se cachant de Mélanthios, qui y était entré, et qui cherchait des armes dans le fond. Ils s'arrêtèrent des deux côtés du seuil, et quand le chevrier Mélanthios revint, tenant d'une main un beau casque, et de l'autre un large bouclier antique que le héros Laertès portait dans sa jeunesse, et qui gisait là depuis longtemps, et dont les courroies étaient rongées, alors ils se jetèrent sur lui, et le traînèrent dans la chambre par les cheveux, l'ayant renversé, gémissant contre terre. Et ils lui lièrent les pieds et les mains avec une corde bien tressée, ainsi que l'avait ordonné le patient et divin Odysseus, fils de Laertès. Puis l'ayant enchaîné, ils le suspendirent à une haute colonne près des poutres, et le porcher Eumaios lui dit en le raillant : Maintenant, Mélanthios, tu vas faire sentinelle toute la nuit, couché dans ce lit moelleux, comme il est juste. Éos au trône d'or ne t'échappera pas, quand elle sortira des flots d'Okeanos, à l'heure où tu amènes tes chèvres aux prétendants pour préparer leur repas. » Et ils le laissèrent là, cruellement attaché. Puis s'étant armés, ils fermèrent les portes brillantes, et pleins de courage, ils retournèrent auprès du sage et subtil Odysseus. Et ils étaient quatre sur le seuil. Et dans la salle, il y avait de nombreux et braves guerriers. Et Athénée, la fille de Zeus, approcha, ayant la figure et la voix de Mentor. Et Odysseus, joyeux de la voir, lui dit : Mentor, éloigne de nous le danger, et souviens-toi de ton cher compagnon qui t'a comblé de bien, car tu es de mon âge. Il parla ainsi, pensant bien que c'était la protectrice Athénée. Et les prétendants de leur côté poussaient des cris menaçants dans la salle. Et le premier, le Damastoride Agélaos, réprimanda Athénée : Mentor, qu'Odysseus ne te persuade pas de combattre les prétendants et de lui venir en aide. Je pense que notre volonté s'accomplira quand nous aurons tué le père et le fils. Tu seras tué avec eux si tu songes à les aider, et tu le paieras de ta tête. Quand nous aurons dompté vos fureurs avec les reins, nous confondrons tes richesses avec celles d'Odysseus, et nous ne laisserons vivre dans tes demeures ni tes fils, ni tes filles, ni ta femme vénérable. » Il parla ainsi, et Athénée s'en irrita davantage, et elle réprimanda Odysseus en paroles irritées. « Odysseus, tu n'as plus ni la vigueur ni le courage que tu avais quand tu combattis 9 ans chez les Troyens pour Hélène aux bras blancs, née d'un père divin. Tu as tué dans la rude mêlée de nombreux guerriers, et c'est par tes conseils que la ville aux larges rues de Priamos a été prise. Pourquoi, maintenant que tu es revenu dans tes demeures, au milieu de tes richesses, cesses-tu d'être brave en face des prétendants ? Allons, cher, tiens-toi près de moi, regarde-moi combattre, et vois si contre tes ennemis, Mentor Alchimide reconnaît le bien que tu lui as fait. » Elle parla ainsi, mais elle ne lui donna pas encore la victoire, voulant éprouver la force et le courage d'Odysseus et de son illustre fils. Et ayant pris la forme d'une hirondelle, elle alla se poser en volant sur une poutre de la salle splendide. Mais le Damastoride Agélaos, Eurynomos, Amphimédon, Démoptolémos, Peisandros Polyctoride et le brave Polybos excitaient les prétendants. C'étaient les plus courageux de ceux qui vivaient encore et qui combattaient pour leur vie, car l'arc et les flèches avaient dompté les autres. Et Agélaos leur dit : Ô amis, cet homme va retenir ses mains inévitables. Déjà, Mentor, qui était venu proférant de vaines bravades, les a laissés seuls sur le seuil de la porte. C'est pourquoi, lancez tous ensemble vos longues piques. Allons, lançons-en 6 d'abord. Si Zeus nous accorde de frapper Odysseus et nous donne cette gloire, nous aurons peu de soucis des autres si celui-là tombe. » Il parla ainsi, et tous lancèrent leurs piques avec ardeur, comme il l'avait ordonné. Mais Athénée les rendit inutiles. L'une frappa le seuil de la salle, l'autre la porte solide et l'autre le mur. Et après qu'ils eurent évité les piques des prétendants, le patient et divin Odysseus dit à ses compagnons « Ô amis, c'est à moi maintenant et à vous. Lançons nos piques dans la foule des prétendants, qui en nous tuant veulent mettre le comble aux maux qu'ils ont déjà causés. » Il parla ainsi, et tous lancèrent leurs piques aiguës. Odysseus contre Démoptolémos, Télémachos contre Riadès, le porcher contre Élatos et le bouvier contre Peisandros. Et tous les quatre mordirent la terre. Et les prétendants se réfugièrent dans le fond de la salle. Et les vainqueurs se ruèrent en avant et arrachèrent leurs piques des cadavres. Alors, les prétendants lancèrent de nouveau leurs longues piques avec une grande force. Mais Athénée les rendit inutiles. L'une frappa le seuil, l'autre la porte solide et l'autre le mur. Amphimédon effleura la main de Télémachos et la pointe d'airain enleva l'épiderme. Ctésippos atteignit l'épaule de Maïos par-dessus le bouclier, mais la longue pique passa par-dessus et tomba sur la terre. Alors, autour du sage et subtil Odysseus, ils lancèrent de nouveau leurs piques aiguës dans la foule des prétendants, et le destructeur de citadelles Odysseus perça Eurydamas. Télémachos, Amphimédon, le porcher Polybos, et le bouvier perça Ctésippos dans la poitrine et lui dit en se glorifiant « Ô Polytercide, ami des injures, il faut cesser de parler avec arrogance et laisser faire les dieux, car ils sont les plus puissants. Voici le salaire du coup que tu as donné au divin Odysseus, tandis qu'il mendiait dans sa demeure. » Et le gardien des bœufs aux pieds flexibles parla ainsi, et de sa longue pique, Odysseus perça le Damastoride. Et Télémachos frappa d'un coup de lance dans le ventre les Vénorides, les Iocritos. L'airain le traversa, et tombant sur la face, il frappa la terre du front. Alors, Athénée tueuse d'hommes agita l'égide au faîte de la salle, et les prétendants furent épouvantés, et ils se dispersèrent dans la salle comme un troupeau de bœufs que tourmente, au printemps, quand les jours sont longs, un temps aux couleurs variées. De même que des vautours aux ongles et au bec recourbé, descendus des montagnes, poursuivent les oiseaux effrayés qui se dispersent de la plaine dans les nuées et les tuent sans qu'ils puissent se sauver par la fuite, tandis que les laboureurs s'en réjouissent. De même, Odysseus et ses compagnons se ruaient par la demeure sur les prétendants et les frappaient de tous côtés, et un horrible bruit de gémissements et de coups s'élevait, et la terre ruisselait de sang. Et Léiodès s'élança, et saisissant les genoux d'Odysseus, il le supplia en paroles ailées. « Je te supplie, Odysseus, écoute, prends pitié de moi, je te le jure, jamais je n'ai dans tes demeures dit une parole outrageante aux femmes, ni commis une action inique, et j'arrêtais les autres prétendants quand ils voulaient en commettre. Mais ils ne m'obéissaient point, et ne s'abstenaient point de violence, et c'est pourquoi ils ont subi une honteuse destinée en expiation de leur folie. Mais moi, leur sacrificateur qui n'ai rien fait, mourrai-je comme eux. Ainsi, à l'avenir, les bonnes actions n'auront plus de récompense. » Et le regardant d'un œil sombre, le prudent Odysseus lui répondit « Si, comme tu le dis, tu as été leur sacrificateur, n'as-tu pas souvent souhaité que mon retour dans la patrie n'arrivât jamais? N'as-tu pas souhaité ma femme bien-aimée et désiré qu'elle enfantât des fils de toi? C'est pourquoi tu n'éviteras pas la lugubre mort. » Ayant ainsi parlé, il saisit à terre de sa main vigoureuse l'épée qu'Agélaos tué avait laissé tomber, et il frappa Léiodès au milieu du cou. Et comme celui-ci parlait encore, sa tête roula dans la poussière. Élaoïde Terpiade Phémios évita la noire guerre, car il chantait de force au milieu des prétendants, et il se tenait debout près de la porte, tenant en main sa guitare sonore, et il hésitait dans son esprit s'il sortirait de la demeure pour s'asseoir dans la cour auprès de l'autel du grand Zeus, là où Laertès et Odysseus avaient brûlé de nombreuses cuisses de bœufs, ou s'il supplierait Odysseus en se jetant à ses genoux. Et il lui sembla meilleur d'embrasser les genoux du Laertiade Odysseus. C'est pourquoi il déposa à terre sa guitare creuse, entre le cratère et le trône au clos d'argent, et s'élançant vers Odysseus, il saisit ses genoux, et il le supplia en paroles ailées. « Je te supplie, Odysseus, écoute et prends pitié de moi. Une grande douleur te saisirait plus tard, si tu tuais un Aoïde qui chante les dieux et les hommes. Je me suis instruit moi-même, et un dieu a mis tous les chants dans mon esprit. Je veux te chanter toi-même, comme un dieu. C'est pourquoi ne m'égorge donc pas. Télémachos, ton cher fils, te dira que ce n'a été ni volontairement, ni par besoin, que je suis venu dans ta demeure pour y chanter après le repas des prétendants. Étant nombreux et plus puissants, ils m'y ont amené de force. » Il parla ainsi, et la force sacrée de Télémachos l'entendit, et aussitôt s'approchant de son père, il lui dit « Arrête, ne frappe point de l'airain un innocent. Nous offrons aussi le héros Médon, qui depuis que j'étais enfant a toujours pris soin de moi dans notre demeure, si toutefois Philoïtios ne l'a point tué, ou le porcher, ou s'il ne t'a point rencontré tandis que tu te ruais dans la salle. » Il parla ainsi, et le prudent Médon l'entendit. Épouvanté et fuyant la guerre noire, il s'était caché sous son trône et s'était enveloppé de la peau récemment enlevée d'un bœuf. Aussitôt, il se releva, et rejetant la peau du bœuf, et s'élançant vers Télémachos, il saisit ses genoux, et le supplia en paroles ailées. « Ô ami, je suis encore ici. Arrête, dis à ton père qu'il n'accable point ma faiblesse de sa force et de l'airain aigu, étant encore irrité contre les prétendants qui ont dévoré ses richesses dans ses demeures et qui t'ont méprisé comme des insensés. » Et le sage Odysseus lui répondit en souriant. « Prends courage, puisque déjà Télémachos t'a sauvé, afin que tu saches dans ton âme et que tu dises aux autres qu'il vaut mieux faire le bien que le mal. Mais sortez tous deux de la maison et asseyez-vous dans la cour, loin du carnage, toi et l'illustre Aoïde, tandis que j'achèverai de faire ici ce qu'il faut. » Il parla ainsi, et tous deux sortirent de la maison, et ils s'assirent auprès de l'autel du grand Zeus, regardant de tous côtés et attendant un nouveau carnage. Alors, Odysseus examina toute la salle, afin de voir si quelqu'un des prétendants vivait encore et avait évité la noire guerre. Mais il les vit tous étendus dans le sang et dans la poussière, comme des poissons que des pêcheurs ont retirés dans un filet de la côte écumeuse de la mer profonde. Tous sont répandus sur le sable, regrettant les eaux de la mer, et Hélios Phaéton leur arrache l'âme. Ainsi les prétendants étaient répandus, les uns sur les autres. Et le prudent Odysseus dit à Télémachos, « Télémachos, hâte-toi, appelle la nourrice Eurycléia, afin que je lui dise ce que j'ai dans l'âme. » Il parla ainsi, et Télémachos obéit à son cher père, et ayant ouvert la porte, il appela la nourrice Eurycléia. « Viens, ô vieille femme née autrefois, toi qui surveilles les servantes dans nos demeures, viens en hâte. Mon père t'appelle pour te dire quelque chose. » Il parla ainsi, et ses paroles ne furent point vaines. Eurycléia ouvrit les portes de la grande demeure, et se hâta de suivre Télémachos qui la précédait. Et elle trouva Odysseus au milieu des cadavres, souillé de sang et de poussière, comme un lion sorti la nuit de l'enclos, après avoir mangé un bœuf, et dont la poitrine et les mâchoires sont ensanglantées, et dont l'aspect est terrible. Ainsi, Odysseus avait les pieds et les mains souillés. Et dès qu'Eurycléia eut vu ses cadavres et ses flots de sang, Elle commença à hurler de joie, parce qu'elle vit qu'une grande œuvre était accomplie. Mais Odysseus la contint et lui dit ces paroles ailées. « Vieille femme, réjouis-toi dans ton âme et ne hurle pas. Il n'est point permis d'insulter des hommes morts. La moire des dieux et leurs actions impies ont dompté ceux-ci. Ils n'honoraient aucun de ceux qui venaient à eux, parmi les hommes terrestres, ni le bon ni le mauvais. C'est pourquoi ils ont subi une mort honteuse à cause de leur violence. Mais allons, indique-moi les femmes qui sont dans cette demeure, celles qui m'ont outragé et celles qui n'ont point failli. » Et la chère nourrice Eurycléia lui répondit, « Mon enfant, je te dirai la vérité. Tu as dans tes demeures 50 femmes que nous avons instruites aux travaux, à tendre les laines et à supporter la servitude. 12 d'entre elles se sont livrées à la pudicité. Elles ne m'honorent point, ni Pénélopéia elle-même. Quant à Télémachos, qui il y a peu de temps était encore enfant, sa mère ne lui a point permis de commander aux femmes. Mais je vais monter dans la haute chambre splendide et tout dire à Pénélopéia, à qui un dieu a envoyé le sommeil. » Et le prudent Odysseus lui répondit, « Ne l'éveille pas encore. Ordonne aux femmes de venir ici, et d'abord celles qui ont commis de mauvaises actions. » Il parla ainsi, et la vieille femme sortit de la salle pour avertir les femmes et les presser de venir. Et Odysseus, ayant appelé à lui Télémachos, le bouvier et le porcher, leur dit ces paroles ailées. « Commencez à emporter les cadavres et donnez des ordres aux femmes, puis avec de l'eau et des éponges poreuses, purifiez les beaux trônes et les tables. Après que vous aurez tout rangé dans la salle, conduisez les femmes hors de la demeure, entre le dôme et le mur de la cour, et frappez-les de vos longues épées aiguës, jusqu'à ce qu'elles aient toutes rendu l'âme, et oubliez Aphrodite, qu'elle goûtait en secret, en se livrant en secret aux prétendants. » Il parla ainsi, et toutes les femmes arrivèrent, en gémissant lamentablement et en versant des larmes. D'abord, cédant les unes les autres, elles emportèrent les cadavres, qu'elles déposèrent sous le portique de la cour. Et Odysseus leur commandait, et les pressait et les forçait d'obéir. Puis elles purifièrent les beaux trônes et les tables avec de l'eau et des éponges poreuses. Et Télémachos, le bouvier et le porcher nettoyaient avec des balais le pavé de la salle. Et les servantes emportaient les souillures et les déposaient hors des portes. Puis ayant tout rangé dans la salle, ils conduisirent les servantes hors de la demeure, entre le dôme et le mur de la cour, les renfermant dans ce lieu étroit dont on ne pouvait s'enfuir. Alors, le prudent Télémachos parla ainsi le premier. « Je n'arracherai point, par une mort non honteuse, l'âme de ces femmes qui répandaient l'opprobre sur ma tête et sur celle de ma mère et qui couchaient avec les prétendants. » Il parla ainsi, et il suspendit le câble d'une nef noire au sommet d'une colonne, et il le tendit autour du dôme, de façon à ce qu'aucune d'entre elles ne touchât des pieds la terre. De même que les grives aux ailes ployées et les colombes se prennent dans un filet, au milieu des buissons de l'enclos où elles sont entrées, et y trouvent un lit funeste. De même, ces femmes avaient le cou serré dans des lacets, afin de mourir misérablement, et leurs pieds ne s'agitèrent point longtemps. Puis ils emmenèrent Mélanthios par le portique dans la cour, et là ils lui coupèrent avec les reins, les narines et les oreilles, et ils lui arrachèrent les parties viriles, qu'ils jetèrent à manger toutes sanglantes aux chiens. Et avec la même fureur, ils lui coupèrent les pieds et les mains. Et leur tâche étant accomplie, ils rentrèrent dans la demeure d'Odysseus. Et alors, celui-ci dit à la chère nourrice Eurycléia, « Vieille femme, apporte-moi du soufre qui guérit les maux, et apporte aussi du feu, afin que je purifie la maison. Ordonne à Pénélopéia de venir ici avec ses servantes, que toutes les servantes viennent ici. » Et la chère nourrice Eurycléia lui répondit, « Certes, mon enfant, tu as bien parlé, mais je vais t'apporter des vêtements, un manteau et une tunique. Ne reste pas dans tes demeures, tes larges épaules ainsi couvertes de haillons, car ce serait honteux. » Et le prudent Odysseus lui répondit, « Apporte d'abord du feu dans cette salle. » Il parla ainsi, et la chère nourrice Eurycléia lui obéit. Elle apporta du feu et du soufre, et Odysseus purifia la maison, et la salle et la cour. Puis la vieille femme remonta dans les belles demeures d'Odysseus pour appeler les femmes et les presser de venir. Et elles entrèrent dans la salle, ayant des torches en main. Et elles entouraient et saluaient Odysseus, prenant ses mains et baisant sa tête et ses épaules. Et il fut saisi du désir de pleurer, car dans son âme, il les reconnut toutes.